à l'antenne du FM 93.1, 92.1. Voici vos informations.
Informations en ce lundi 12 février. Au terme de la semaine des régions qui se déroulait du 5 au 9 février, l'organisme Place aux jeunes en région a mis en lumière l'enjeu de la pénurie de logements qui ralentit sa mission première de recruter des jeunes travailleurs dans toutes les régions du Québec. Monsieur Frédéric Raymond, directeur général de Place aux jeunes en région, explique en quoi cette situation a un impact plus que majeur pour les communautés.
Le fait de manquer de logements, premièrement, c'est sûr que c'est un élément de base pour les personnes qui veulent aller en région. Donc, pas de logement, les jeunes ne peuvent nécessairement pas y aller. Comparativement à d'autres problématiques qu'on pourrait voir, par exemple, manque de place en service de garde ou un réseau cellulaire plus ou moins bon, les gens peuvent quand même être capables de s'arranger, mais pas de logement. Ça fait en sorte que c'est une perte nette de personnes qui peuvent aller en région.
Place aux jeunes a recensé, en fonction de ces données, que le manque de logement aurait empêché au moins 700 jeunes de s'établir dans une région au Québec en 2023, ce qui, selon une étude que l'organisme a commandée sur la contribution économique des mouvements migratoires, représente une énorme perte économique pour les milieux.
Chaque jeune qu'on amène en région amène une valeur économique de 131 000 $ pour chacune des MRC. C'est basé sur quoi ce montant-là? Dans le fond, c'est les retombées qui sont liées à l'emploi que ces jeunes-là vont occuper. Donc, ils vont amener une contribution au PIB régional, puis également toutes les dépenses de consommation que ces jeunes-là ils vont faire dans leur nouveau milieu de vie.
En prenant compte des 700 potentielles migrations non complétées, on peut donc estimer que le manque de logement est responsable d'une perte économique de près de 90 millions de dollars seulement en 2023.
Et ça, c'est une perte par année. Donc, si ces jeunes-là ne vont pas cette année, ne vont pas l'année prochaine, ils ne peuvent pas contribuer à l'économie régionale. Le deuxième grand impact, c'est l'impact démographique. On a une population de plus en plus vieillissante, notamment, encore plus particulièrement dans les régions un peu plus éloignées des grands centres. Quand on amène des jeunes, on a un impact fort sur la démographie parce que ces jeunes-là, ils restent en région. Fait que c'est sûr que ça a des impacts de façon très englobante sur une région.
Cette pénurie de logements n'affecte évidemment pas que la migration des jeunes de 18 à 35 ans, mais bien l'ensemble du recrutement de main-d'œuvre. Par contre, pour Place aux jeunes, la mission de ramener les jeunes en région est plus que primordiale pour la vitalité régionale.
On voit que dans les dernières années, il y a un engouement pour le retour en région. On a plusieurs territoires qui sont maintenant rendus avec des soldes migratoires positifs. Par contre, il faut faire le bémol que nous, on a fait faire une étude sur le bilan démographique des jeunes en région entre 1986 et 2021. Et c'est là qu'on voit qu'on a perdu énormément de jeunes dans nos régions. Donc, plusieurs territoires qui ont perdu plus que 50 % de leurs jeunes. En nombre absolu, on parle de vingtaines, de trentaines de milliers de jeunes. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire pour ramener plus de jeunes en région, puis ainsi essayer de contrer l'effet démographique de la population de plus en plus vieillissante dans ces régions-là.
Loisirs et sports Abitibi-Témiscamingue est fier d'avoir soutenu 43 milieux pour l'acquisition de matériel de jeux libres suite à un appel de projet spécial lancé l'hiver dernier. Madame Karine Bisson, kinésiologue et conseillère chez Loisirs et sports, explique pourquoi le matériel de jeux libres a été mis de l'avant.
L'intention derrière notre soutien financier, c'est de permettre à la population d'être plus active et il y a des études qui ont été faites qui démontrent que le matériel de jeux libres, en fait, ça permet aux enfants d'être jusqu'à deux fois plus actifs, donc deux fois plus en mouvement que lorsqu'ils utilisent des équipements fixes comme des modules de jeu, par exemple.
Un total de 77 000 $ ont été mobilisés pour cette initiative qui permettait de financer jusqu'à 75 % du coût de projet. Au Témiscamingue, ce sont 3 écoles secondaires, 7 écoles primaires et 3 municipalités qui ont saisi cette opportunité.
Pour certaines organisations, ça a probablement été l'occasion parfaite pour renouveler du matériel. Il y a tout ce qui est évidemment des ballons, là, c'est très versatile comme équipement. Il y a plusieurs façons de les utiliser. Mais on peut parler de bâtons, de balles de toutes sortes, de cordes à sauter, d'élastiques. C'est vraiment, vraiment varié et c'était selon les besoins et les intérêts aussi là, des organisations.
Outre le matériel de jeux libres, Loisirs et sports Abitibi-Témiscamingue a pu soutenir différentes initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air dans le but de favoriser la pratique régulière d'activité physique via différents programmes dont certains sont d'ailleurs accessibles tout au long de l'année.
Depuis janvier 2021, on a soutenu plus de 225 projets dans la totalité de la région. maisons. Les projets sont vraiment variés, là. Dans certains cas, on parle d'ajouter des équipements au centre de conditionnement local. Dans certains cas, on est venu bonifier un parc ou une cour d'école, soutenir la création d'une équipe de hockey récréatif. C'est vraiment, vraiment varié, les demandes. Ça me permet de croire que la population est encore sur la bonne voie d'être active et cherche toujours là, à innover pour le demeurer.
Alors que la demande pour des passeports est souvent plus élevée en hiver, Service Canada estime être en mesure actuellement de pouvoir délivrer les passeports dans le respect de ses normes de service. Toutefois, les Canadiens qui prévoient s'évader pendant la semaine de relâche ou lors d'autres escapades hivernales pourraient se heurter à des files d'attente plus longues dans certains bureaux des passeports. Par exemple, pour la semaine du 29 janvier, quelle que soit la méthode de soumission, ce sont 97 % des demandes qui ont été traitées dans les délais que Service Canada s'engage à respecter, c'est-à-dire 10 jours ouvrables. À titre préventif, le ministre des Services aux citoyens, M. Terry Beach, tenait à souligner qu'outre les bureaux des passeports, les Canadiens peuvent présenter leurs demandes en personne dans l'un des quelques 300 centres de Service Canada et sites de services mobiles réguliers partout au pays où la demande sera traitée dans les 20 jours ouvrables. Il est aussi possible de présenter une demande par la poste et elle sera traitée dans un délai également de 20 jours ouvrables. Par contre, les Canadiens qui ont besoin d'un passeport dans un délai inférieur à 10 jours doivent se rendre à un bureau des passeports qui offre les services de retrait urgent ou express. Voilà ce qui complète ce bulletin d'information. Vous écoutez CKVM, la voix du Témiscamingue.